La croix pectorale de Charles Quint par Gaston Charles Richard. Ma chère amie, dit Lady Farquhar, je vous présente Miss Elsa Van Leggels, en qui vous pouvez avoir pleine confiance. Ma chère Elsa, je vous demande de faire pour ma grande amie, Madame von Hammerstein Wetzenerode, ce que, dans les mêmes circonstances, vous feriez pour moi. Elsa s'inclina gracieusement devant la grande dame autrichienne, qui, assise près de Lady Farquhar, la considérait avec une surprise profonde. Mademoiselle est-elle donc, ma chère Gladys, dit enfin la princesse, cette étonnante détective dont vous m'avez parlé? Miss Elsa Van Leggels m'a rendu un service que je ne serai oublié sans ingratitude, dit Lady Farquhar en souriant à la jeune femme. Elle a connu depuis d'autres succès en risquant à la fois sa vie et sa fortune. Je lui ai voué une estime particulière, une amitié complète, et c'est en parfaite connaissance de cause que je vous répète, ma chère, bien chère Hilda, que vous pouvez vous confier à elle. « Je le ferai donc, » dit Madame von Hammerstein en s'adressant à Elsa. « Voulez-vous me prêter quelques minutes d'attention, Miss Van Leggels ?»« Je vous écoute, madame, » répondit simplement Elsa. « Avant la guerre, » dit Madame de Hammerstein-Wetzenerode, en se recueillant un peu, « nous possédions, en Hongrie, dans le banat de Temeswar, une fort belle propriété dans laquelle s'élevait un monument vénéré de toute la nation magyare, une chapelle érigée par Jean Uniade, rebâti par Matthias Corvinus, paré, décoré, honoré par Maximilien, par sa femme, par Charles Quint, par Jean Sigismond, et dans laquelle, aux côtés de Fritz von Hammerstein, dit l'Assommeur, tué aux côtés de Jean Uniade dans une rencontre contre les Turcs, qui respectèrent le saint édifice, reposait le feldmaréchal d'Empire Otton von Hammerstein-Wetzenerode, qui, après la première abdication de Napoléon Ier, fut pour les troupes alliées l'un des majors de la garnison de Paris. Le trésor de la chapelle comprenait d'admirables pièces, un ciboire offert par Maximilien, une croix pectorale donnée par Charles Quint, œuvre de ce rare et mystique Manuel Ocegaro qui fut, au XVIe siècle, le rival de Benvenuto Cellini. On y avait déposé les décorations et insignes de mon aïeul, le feldmaréchal, son bâton de commandement, ses plaques de grand cordon de la Légion d'honneur, de l'aigle blanc de Russie et de l'aigle noir de Prusse ornés de brillants. Or, pendant la révolution communiste de 1919, et sous la direction de soviétistes russes, qui collaboraient avec les hommes de Belakoun, de Diener Denesh et de leur lieutenant, notre bien fut affreusement saccagé. On tua bêtement des étalons et des juments de grande valeur, reproducteurs d'une race magnifique de chevaux hongrois. On incendia une ferme modèle, où nous élevions des taureaux et des vaches, des béliers et des brebis, des boucs et des chèvres, des verrailles détruits, sélectionnés, choisis, faits pour améliorer les espèces indigènes, et que ces brutes sans pitié mutilèrent atrocement ou brûlèrent vifs, comme si ces innocents animaux étaient responsables des fautes que nous avions pu commettre dans le cours des âges. Vous pensez bien que la chapelle ne fut pas épargnée. On lacéra, on brûla les étendards, conquis sur l'ennemi qui en décorait les voûtes, on brisa les armes de prix suspendues en ex-voto, on pilla le trésor, on souilla odieusement les vases sacrés, on profana de cent façons le sanctuaire avant de l'incendier. La princesse se tut, et le visage caché dans son mouchoir, donna un instant court à ses larmes. Elsa et Lady Farquhar respectèrent son émotion. Quand elle se fut apaisée, la princesse reprit. « Je sais que quelques-uns des objets volés chez nous par des communistes russes se trouvent encore en possession de l'un des membres de la mission commerciale soviétique. Je le sais de façon pertinente. J'ai fait agir les meilleures influences auprès des chefs de cette mission, mais en vain. À toutes mes ouvertures, on m'a répondu que l'on ne savait pas de quoi je voulais parler. Pourtant, l'un des membres de la mission a vendu à Charles Springfield, que vous connaissez, un poignard orné de pierreries qui vient de chez nous. Cet individu a donné naturellement un nom russe. Or, c'est un Israélite, en réalité, né en Amérique. Il se nomme, de son véritable nom, Alexandre Ivanovitch Wertzheim. Et que désirez-vous de moi, dans l'occurrence ? Demanda Elsa. Je désirais que vous vous informassiez si, oui ou non, l'individu en question possède encore ses bijoux. S'il les possède, je m'arrangerai pour les faire acheter. Mais je crains fort qu'il n'en ait vendu les pierreries et fondu les montures. Ils ont à Stockholm une officine où l'on se charge de ces opérations. » conclut la princesse. « Je sais, » dit pensivement Elsa. « Vous serait-il possible de me donner une description succincte de ces bijoux ?»«
Je ferai mieux, »
répliqua Madame de Hammerstein. « Je vous en enverrai les photographies. » L'été en cette année de 1923 pesait cruellement sur Londres, et tous ceux qui pouvaient fuir en hâte la fournaise de la ville surchauffée se gardaient bien d'y manquer dès la fin de juin. Alexandre Ivanovitch Wertheim avait loué à Hanworth, aux environs de Londres, un assez joli cottage très confortable entouré de haies vives qui closait un beau jardin et une roseraie. Il rentrait là tous les soirs, comme un bon bourgeois, sa journée accomplie, et garait lui-même sa petite auto dans la remise qui flanquait le cottage. Sa femme, Stesha Alexeïevna, vivait seule dans le pavillon en compagnie de son enfant. Tous deux, l'homme et la femme, petits, maigres, bruns, l'air chétif, présentaient bien plus le type marqué des Israélites de l'Europe centrale que celui des Slaves. La jeune femme, elle n'avait guère que 25 ans, passait le meilleur de son temps à fumer, à boire du thé et à se balancer dans un hamac en lisant les journaux que son mari, chaque jour, rapportait par paquet de Londres. Les soins de la cuisine, de la maison, les travaux ménagers, la couture, semblaient être les cadets de ses soucis. Quand Alexandre Ivanovitch revenait de son bureau, on mettait sur la table une boîte de conserve, des fruits, du pain, du beurre, de la bière ou du vin. Et pour ces multiples raisons, tout allait assez mal dans le ménage. Des querelles, deux ou trois fois par semaine, éclataient entre Alexandre et Stesha, celui-là réclamant une nourriture plus en rapport avec les sacrifices d'argent et les dépenses qu'il consentait, celle-ci arguant du peu de temps que lui laissaient ses occupations intellectuelles et de son dédain des contingences quotidiennes. Tout cela pour le plus grand amusement ou le scandale des voisins, qui, bien que ne comprenant goutte à ce que se disaient les deux Russes, s'émerveillaient de leurs cris, de leurs gestes, de leur incessant désaccord et surtout de leur extraordinaire volubilité. Elsa savait tout cela. Elle savait aussi que la jeune femme réclamait une domestique et que son mari se refusait à lui en donner une. Bref, un matin, coiffée et vêtue en servante, munie d'une petite valise et d'un vieux parapluie, elle alla sonner chez les Wertheim. « On m'a dit que vous prendriez peut-être une domestique, » dit-elle de son air le plus naïf. « Je crois que je pourrais faire votre affaire. On vient de me mettre en chômage dans mon bureau. Alors, comme il faut bien vivre, j'ai décidé d'entrer en service. Je ne demande qu'à vous satisfaire. Je sais faire la cuisine, raccommoder, laver, surveiller les enfants. Et pourvu que je sois bien nourri et bien couché, je ne serai pas trop exigeante sur les gages. » Elsa dut subir un long et soupçonneux interrogatoire de la part de Stesha, car la méfiance est le premier devoir d'une vraie communiste. Enfin, la jeune femme, après force hésitation, agréa cette domestique qui lui tombait du ciel, et Elsa se mit tout aussitôt à la besogne. Il y avait fort à faire chez les Wertheim, car ces gens vivaient dans un désordre inexprimable et une saleté totale. Vaisselle souillée, papier gras, boîtes de conserve, ficelles, journaux déchirés jonchaient les tables, le sol couvrait les meubles. La cuisine était un capharnaüm sans nom, et la salle de bain elle-même ne laissait pas que d'être d'aspect peu engageant, avec sa baignoire jamais lavée et ses lavabos encrassés. Quant à l'enfant, on le débarbouillait le matin d'un coup d'éponge, et pour le reste, on la laissait se débrouiller toute seule dans la maison ou dans le jardin. C'était une fillette maigre, triste, sauvage, de 5 ou 6 ans, au teint brouillé et aux yeux pleins de défiance, que l'on nommait Vera. Elsa, en vraie hollandaise, avait l'horreur de la saleté et du désordre, et l'idée qu'il lui faudrait vivre là-dedans lui causait un intolérable malaise. Elle alla chercher une aide dans le bourg, l'amena, la présenta comme une copine qui l'aiderait à tout mettre en train, et 2 jours durant, trima comme un cheval pour restituer à cette honnête maison anglaise l'aspect de netteté et le brillant qu'elle avait perdu. Quand le premier soir elle eut servi un potage aux flocons d'avoine, un roast beef bien à point entouré de pommes de terre cuites à la vapeur, une salade de légumes et une compote, le camarade Wertheim ne cacha pas son contentement, non plus d'ailleurs que sa perplexité. Devait-il s'embourgeoiser au point d'accepter une telle servitude à son bénéfice, ou rester fidèle à la doctrine des purs? Il eut à ce sujet une longue discussion avec sa femme en présence d'Elsa. et celle-ci ne se sentit pas de joie en constatant que le langage germano-polonais hébraïque qu'ils employaient était à peu de choses près celui des petites juives riches de Galicie qu'elle dressait jadis comme monitrice dans son institution première à Amsterdam. Toutefois, quand à deux ou trois reprises Wertheim s'avisa brusquement de lui adresser la parole en employant ce charabia, elle fit l'ignorante et prit son air le plus niais pour répondre qu'elle ne comprenait pas. Enfin, le deuxième jour, après une discussion qui se prolongea interminablement, des cris, des protestations, des larmes même, Alexandre Wertheim dit à Elsa qu'il la garderait comme domestique durant 3 mois, mais qu'il ne pourrait plus l'employer au moment de retourner à Londres après la saison d'été. « Yes, sœur, nous sommes d'accord, » répondit Elsa avec son plus large sourire. « Je suis très contente. » Dès lors, elle fut la maîtresse à peu près incontestée de la maison. Après 3 jours de surveillance, la nonchalance reprit le dessus chez Stécha Alexeïevna, et elle retourna à ses occupations intellectuelles, à ses cigarettes, à son samovar et à son hamac. La huitaine ne s'était pas écoulée, qu'Elsa avait visité toute la maison, tous les meubles, tous les recoins, sans rien découvrir de ce qui l'intéressait. Si Alexandre Wertheim possédait les souvenirs de famille de la princesse de Hammerstein-Wetzenrode, à coup sûr, il ne les gardait pas chez lui. Elle ne tarda pas à remarquer que Wertheim racontait à sa femme tout ce qui se passait à la mission commerciale. Il lui confiait de même tout ce qui venait à ses oreilles. Elle jugea alors qu'il fallait que la princesse fît de nouvelles propositions à son maître, persuadée que celui-ci ne tarderait pas à en reparler à sa femme. Elle avait bien jugé. « La dame est encore revenue à la charge, » dit le lendemain soir Wertheim à sa femme. « Elle dit qu'elle donnera 10 000 $ si on lui rend ce qu'elle réclame. » « N'oublions pas qu'en Amérique, dit la jeune femme, la croix seule vaudrait 5 fois plus. Si on la passe. Et comment dire que c'est la croix pectorale de Charles Quint prise dans la chapelle historique de Hammerstein? Si nous essayons de l'introduire en fraude et qu'on nous pince, nous n'y couperons pas. La police et le fisc américain ne plaisantent pas. Les autres ne savent toujours rien de l'affaire? Demanda la jeune femme. Non, j'ai seule la clé du coffre à la banque et le chiffre de la combinaison. Ce n'est pas prudent, dit la petite soviétiste. Tu ferais mieux de rapporter tout cela ici. J'aurais surtout mieux fait de le vendre à Stockholm, conclut le bolchevique d'un air soucieux. Il revint le lendemain soir porteur d'un paquet solidement noué dans un sac de grosse toile grise, de ces sacs où naguère les banques enfermaient les écus. Il renvoya brutalement Elsa dans sa cuisine et eut avec sa femme une longue conversation non plus en yiddish mais en russe. Après cette conversation, Stécha Wertheim sortit de la salle à manger. Elle dissimulait, assez mal, le sac dans sa serviette et alla le mettre sous clé dans l'armoire de sa chambre. Quand, le lendemain, Elsa descendit de sa chambre pour servir le déjeuner à Alexandre Wertheim, le bolchevique remarqua avec étonnement qu'elle se traînait péniblement plus qu'elle ne marchait. Ses yeux largement cernés, ses lèvres blêmes, l'affaissement général de son être témoignaient d'une immense fatigue. « Êtes-vous malade ? » demanda-t-il. « Je n'ai pas dormi de la nuit, » avoua Elsa. « J'ai un peu de fièvre. Mal dans les reins, mal à la tête. C'est la grippe. Prenez de la quinine ammoniaque et allez vous coucher. »« Oh non ! » dit Elsa. « Faut pas s'écouter. Ça passera. » Le camarade Wertheim partit. Les douleurs de la pauvre Elsa ne firent que croître. Elle consentit à aller se coucher. Une heure plus tard, la malheureuse appelait sa patronne à grands cris. « C'est du feu, c'est horrible, j'ai si mal, je vais mourir !» gémissait-elle en se tournant sur sa couche. « Mais qu'avez-vous ? » fit Stécha alarmé. « Je ne sais pas, j'ai des taches bleues partout, sur le corps, regardez, ah que je souffre !» Stécha, horrifiée, vit sur les bras et la gorge d'Elsa des taches violâtres ou bleu-noires d'un vilain aspect. « Serait-ce le choléra ? » dit-elle toute troublée. « Souffrez-vous de l'intestin ? » ?»« Oui, oui, horriblement !» gargouilla Elsa qui se tordait, en proie des nausées torturantes. « Un médecin, je vous en supplie, et de l'élixir des 4 voleurs, ou je vais mourir. »« C'est bien, j'irai chercher le médecin. Mais je vous enfermerai ici, je vous préviens. »« Oui, si vous voulez, ça m'est bien égal. Dieu, que je souffre. Christ, pitié pour moi. » Stécha Alexeïevna sortit de la chambre, ferma la porte à clé, descendit l'escalier en courant. 2 minutes plus tard, Elsa l'entendit qui appelait sa fille à tue-tête, et quelques instants plus tard, le grincement de la poterne de la grille par deux fois apprit à la police woman que la femme et l'enfant s'éloignaient vers le bourg. « Une chance que cet idiot n'ait pas gardé le téléphone !» murmura Elsa, qui, de bon un clin d'œil, courut à sa valise, en tira un trousseau de passe-partout et s'occupa activement à rouvrir sa porte. Elle en vint à bout en une minute. Il ne lui en fallut pas cinq pour ouvrir celle de la chambre de Stécha et de l'armoire où la jeune femme avait enfermé le sac de toile grise. Le sac ouvert livra bientôt ses trésors. La croix pectorale y brillait parmi des bagues, des pendentifs, une plaque de grand croix de la Légion d'honneur ornée de diamants et enrichie au revers de cette inscription « Napoléon Ier, empereur des Français, à son Excellence le Feldmaréchal von Hammerstein-Wetzenerode, avril 1810. » Presque tous les joyaux et souvenirs de la famille volés à la princesse de Hammerstein étaient là. Elsa referma le sac, le prit, remonta dans sa chambre et 10 minutes plus tard, revêtue en hâte, et débarrassée des taches suspectes qui lui marbraient le visage et le corps entier, empoignait sa valise et se dirigeait vers la porte de la grille. Celle-là aussi était fermée à clé. Elsa s'assit tranquillement sur un banc et attendit. Un quart d'heure s'écoula, puis une auto stoppa devant la grille dont la poterne s'ouvrit, livrant passage à Stécha, puis à sa fille et enfin un homme d'une cinquantaine d'années qui portait à la main un sac de cuir noir. « Entrez, docteur, » dit la jeune soviétiste. « Inutile, » dit Elsa qui, sa valise à la main, se coula vers la porte. « Je me sens beaucoup mieux et je vais de ce pas à l'hôpital à Londres. » Stécha Alexeïevna s'était retournée et la regardait soupçonneusement. « Oui, » dit Elsa en yiddish, et avec le plus beau flegme, « l'air de Hanworth, pour moi, ne vaut décidément rien. Au revoir, madame. » Et laissant là sa patronne, muette de stupeur et d'effroi, Elsa franchit la poterne, la referma sur elle, et sa valise à la main s'éloigna paisiblement. Elle n'avait pas fait 500 mètres qu'elle croisait sur la route une automobile dans laquelle se trouvaient Wertheim et deux jeunes gens au type slave très prononcé. À la vue de sa servante, Wertheim stoppa, bondit hors de sa voiture et vint à Elsa. « Où allez-vous » dit-il. « Que faites-vous ici avec cette valise à la main? Vous n'êtes donc plus malade ?»« Je vais chercher du linge chez ma grand-mère, monsieur, » dit posément Elsa. « Je vais beaucoup mieux, je vous remercie. Où est ma femme ?»« À la villa, monsieur. Elle est un peu souffrante, je crois, monsieur. Vous auriez bien de l'aller rejoindre ?»« J'y vais, » dit Wertheim. Il remonta dans sa voiture et poursuivit son chemin. Elsa, de l'air le plus calme, reprit aussitôt le sien. 10 minutes plus tard, elle roulait vers Londres, un complaisant automobiliste ayant consenti à la conduire jusqu'à la gare de Twickenham. Le soir même, en présence de Lady Farquhar, toute joyeuse d'une si belle et si prompte réussite, Elsa van Leggels remettait ses précieux joyaux à la princesse de Hammerstein. Et elle apprit à celle-ci, quelques jours plus tard, que Wertheim et sa femme étaient repartis pour Moscou, assez précipitamment. Elle n'en a jamais eu de nouvelles. Ainsi s'achève La croix pectorale de Charles Quint par Gaston Charles Richard.